Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
La tension est montée d'un cran ces derniers jours entre l'Iran et l'Arabie Saoudite après l'annonce de la démission du premier ministre libanais Saad Hariri le 4 novembre depuis Riyad en Arabie Saoudite où il serait, selon de nombreux dirigeants libanais, retenu en otage. Pour en parler, je suis en compagnie de Bertrand Badi. Bonjour.
Bonjour.
Êtes politologue, professeur de relations internationales à Sciences Po et chercheur au CERI. Et Clarence Rodriguez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez été correspondante à Riyad de 2005 à 2017 pour de grands médias français et vous venez de publier Arabie Saoudite 3.0, parole de la jeunesse saoudienne. Et dans ce livre, Clarence, vous évoquez un certain nombre d'idées fausses sur l'Arabie Saoudite. Alors on va peut-être commencer par les idées vraies. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce pays ?
Alors l'Arabie Saoudite est quand même un grand pays donc dans le Golfe, le Moyen-Orient, 30 millions d'habitants, dont 10 étrangers. Entre 65 et 70% de la population a moins de 30 ans. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup le chiffre 70%, mais c'est vrai qu'en termes de communication, c'est fort pour imposer un certain nombre d'idées. En tous les cas, je parle notamment du prince héritier Mohamed bin Salman. C'est un pays, en fait, c'est une monarchie, hein, il faut quand même le préciser. Un pays jeune, qui est né en 1932 et qui, jusqu'à présent, vivait de sa rente pétrolière. Je dis bien jusqu'à présent, parce que depuis 3 ans, l'Arabie Saoudite est plongée dans une crise économique sans précédent à cause de la chute du prix du baril de pétrole. Et c'est la raison pour laquelle on assiste aujourd'hui à toute cette turbulence, à cette révolution au sein même de l'Arabie, parce que le jeune prince héritier Mohamed bin Salman, qui sera donc demain le prochain roi, essaie de moderniser cette société archaïque, une société...
Très archaïque, il y avait eu un mot de Kamel Daoud qui avait fait mouche, on parlait d'un Daesh qui avait réussi.
Non, mais là, c'est, en termes de communication, c'est très fort, effectivement. Mais c'est pas tout à fait ça. Quand même, dans la réalité, ce sont des phrases, si vous voulez. Daesh qui a réussi. Moi, je veux vraiment parler parce que j'ai vécu en Arabie Saoudite. Je ne suis pas, si vous voulez, une politologue comme monsieur.
Comme Bertrand Badi.
Quand vous discutez avec les gens, si vous voulez, d'abord, ils n'en parlent pas, si vous voulez. Donc, ça n'existe pas pour eux. Attention, hein. Il y a une sorte de déni, c'est vrai.
Sur le plan géopolitique, Bertrand Badi, l'importance de l'Arabie Saoudite, pourquoi soudainement ce pays semble être au cœur de l'échiquier régional ?
Alors, deux paramètres. Le paramètre intérieur, et vous en parlez, madame, beaucoup mieux que moi, je me permettrai d'ajouter une chose, c'est que ce qui caractérisait cet État jusqu'à maintenant, et encore maintenant, c'est que c'est une gérontocratie, presque officielle, c'est-à-dire que n'accédaient au trône que les fils du roi Abdelaziz Al-Saoud, c'est-à-dire des gens qui maintenant ont au moins 80 ans. Bon, ce qui est une source de blocage considérable, et comme le roi Abdelaziz avait beaucoup d'enfants, c'est une lutte entre frères, et maintenant, passage à la génération suivante avec MBS, une lutte entre cousins.
Et de très jeune fait, MBS.
Comment ?
Très jeune, moins de 30 ans.
Voilà, c'est une nouvelle génération, et donc ce qu'il y a derrière tout le remue-ménage qu'on assiste actuellement, c'est une prise de pouvoir, et une prise de pouvoir musclée, puisqu'il a envoyé la plupart de ses cousins en prison, en tout cas ceux qui risquaient de lui faire de l'ombre, et il étend en quelque sorte les modalités de sa prise de pouvoir en s'en prenant un certain nombre de pays de la région. Alors, première étape, ça a été le Qatar, qui a été mis au ban parce que, ayant une sorte de velléité autonome par rapport aux grands frères saoudiens, et ça depuis un certain temps. Ensuite, ça a été le Yémen, parce que le Yémen, effectivement, est en situation de guerre civile et que l'Arabie Saoudite veut remettre la main dessus. Le Liban, où on vient, en quelque sorte, prendre en otage le Premier ministre, et vous savez, un peu comme Brejnev l'avait fait avec Dubček en 68, c'est-à-dire le faire venir à Moscou pour le faire démissionner et puis le garder un certain temps dans des résidences plus ou moins surveillées. Derrière tout cela, quelque chose de très important, avec le printemps arabe, les deux califats, comme on dit, du monde arabe, c'est-à-dire Damas et Bagdad, ont perdu de leur leadership, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, Bagdad, c'était déjà un petit peu avant, dès l'invasion américaine de 2003. Et donc, le vieux rêve saoudien de devenir le leader principal, le leader, l'hégémone du monde arabe, commençait à prendre forme. Ce que l'Arabie saoudite tente de faire, c'est de s'imposer comme puissance régionale, là où il y a une place à prendre. On pourrait ajouter aussi le Caire, qui a été marginalisé par le printemps arabe. Et pour prendre ce leadership sur le monde arabe, il faut d'une part exclure un certain nombre de concurrents potentiels, il faut également mater un certain nombre de réseaux qui sont autonomes, et notamment le Hezbollah au Liban, et il faut surtout se mesurer à l'autre puissance régionale potentielle de la région, qu'est l'Iran. L'Iran n'est pas un pays arabe, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le leadership dans le monde arabe aujourd'hui risque de se disputer entre deux puissances non-arabes, la Turquie et l'Iran. Alors l'Arabie Saoudite essaye de s'imposer, elle le fait de manière extraordinairement violente.
Alors je vais essayer de m'imposer.
Clarence Rodriguez.
C'est juste revenir sur quand même Mohamed Bin Salman, parce que Mohamed Bin Salman, le prince héritier, il était vice-prince héritier lorsqu'il a été imposé par son père en janvier 2015, après la mort de feu roi Abdallah, illustre inconnu. Il est parachuté chef de guerre, ministre de la Défense. Il est également à la tête du Conseil d'économique et de développement. En fait, il phagocyte tous les pouvoirs, ce jeune, qui à l'époque n'a que 29 ans. Et donc ce Mohamed Bin Salman, et vous l'avez dit, monsieur, c'est qu'il essaie en fait de tout nettoyer, c'est-à-dire que pour réparer son règne. Voyez, et son intronisation. Et ce jeune qui, en fait, c'est le préféré, c'est le fils préféré du roi, mais c'était pas forcément le plus compétent par rapport à ses autres frères, hein, dont un de ses frères, qui a été un des premiers astronautes arabes, l'autre est également le vice-ministre du pétrole, et l'autre qui est gouverneur, donc, de la région de la Mecque.
Qu'est-ce qu'il veut faire, alors, Clarence Rodriguez?
Il veut moderniser, et vous l'avez dit, effectivement, il veut moderniser ce pays archaïque qui, en fait, empêche cette population de respirer. Il faut quand même, voilà, il faut être clair. C'est très difficile aujourd'hui d'être jeune et de vivre en Arabie Saoudite parce qu'il y a des contraintes.
Lesquelles ?
Il y a des contraintes liées notamment à la loi chariatique, mais qui sont en train, en ce moment, si vous voulez, c'est ce que j'explique justement dans le livre. Depuis l'arrivée de ce jeune prince, il y a des contraintes. Alors, je vais parler des femmes dans un premier temps. Les femmes sont aujourd'hui sous la tutelle d'un maram, un maram qui est un tuteur masculin, qui peut être donc un père, un mari ou un membre de la famille, et également, quand celle-ci est veuve, ça peut être aussi un fils. Donc, vous imaginez un instant, vous avez mis au monde un garçon, un fils, le gamin peut avoir 17 ans ou 18 ans, il peut avoir un droit de vie ou de mort sur sa mère. Ça, le tutorat. Et d'ailleurs, je voudrais préciser que avant même d'obtenir, si vous voulez, le droit de conduire, les femmes souhaiteraient l'abolition du tutorat. Donc ça, c'est franchement, quand vous êtes une femme, bon, les femmes vont pouvoir conduire effectivement en juin 2018. Ça fait partie justement des mesures qu'est en train de mettre en place le jeune prince héritier.
Mais alors, vous expliquez, Clarence Rodriguez, ouais, dans votre livre, que cette société archaïque est très moderne à beaucoup d'égards, mmh, comme par exemple sur le plan donc de la vie numérique, où là, il y a un taux d'équipement qui bat des records et un niveau de développement qui est très élevé. C'est cela le paradoxe du pays.
Absolument. Moi, j'ai envie de dire que voilà, l'Arabie Saoudite, si vous voulez, est entre modernité et tradition. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué, d'où, si vous voulez, un peu cette ambiguïté, il y a aussi beaucoup, comment dirais-je, d'hypocrisie au sein même de cette société. Il faut pas avoir peur non plus, hein. Donc on ne sait jamais. C'est l'Arabie Saoudite entre modernité avec justement les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, l'Arabie Saoudite est championne du monde d'utilisation de Twitter, de réseaux sociaux. Donc les jeunes, si vous voulez, donc comme je le disais, entre 65 et 70%, bien sont biberonnés aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils savent très bien comment ça se passe, ce qui se passe à l'extérieur. Ces jeunes aussi qui vont étudier à l'étranger. Je ne dis pas que c'est une grande majorité qui a bénéficié de la bourse Abdallah en 2005, mais ce sont des jeunes qui ont étudié et qui reviennent donc avec une mentalité occidentale et qui veulent jouer un rôle important et prépondérant dans leur société.
Bertrand Badi, quelles sont les chances de Mohamed Ben Salman, donc ce prince baptisé MBS, quelles sont ses chances de faire évoluer l'Arabie Saoudite sur le plan intérieur, mais surtout sur l'échiquier géopolitique?
Oui, alors d'abord, faire évoluer, je ne suis pas sûr que ce soit sa première préoccupation. Sa première préoccupation est une prise de pouvoir. Il faut bien comprendre ça. Et madame a tout à fait raison de dire qu'effectivement, avec le changement de donne, c'est-à-dire le fait que la rente pétrolière ne peut plus à elle seule faire fonctionner ce pays, il faut diversifier les activités économiques, diversifier les activités de production et donc prendre le risque de favoriser la naissance d'une vraie société civile qui pourrait un jour ébranler cette monarchie hors du temps. Donc effectivement, entre maintenir un système monarchique qui n'a finalement pour racine qu'une vieille tradition et en même temps adapter ce royaume à un contexte régional et mondial tout à fait changeant, c'est extraordinairement difficile. Alors, dans cette logique de prise de pouvoir, effectivement, l'international joue un rôle très important. Alors, tout à l'heure, je le disais, une façon de consolider son propre pouvoir, c'est de se présenter comme le nouveau leader du monde arabe, le Nasser des temps modernes, un Nasser conservateur et traditionnaliste. C'est déjà difficile. Donc, s'opposer à tout un tas de pays, y compris, je le disais aussi tout à l'heure, l'Iran et la Turquie, ce qui est extraordinairement risqué. Alors, il s'est quand même produit un événement, et un événement très important, c'est l'élection de M. Trump aux États-Unis, le voyage de son gendre, M. Kouchner, Jared Kouchner, en Arabie Saoudite, et effectivement, suivi d'un voyage officiel de Trump, et là, très probablement, il s'est passé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est quoi suite à ce voyage, eh bien, quelque chose qui bouleverse très, très profondément la donne dans cette région, c'est une sorte d'alignement de planètes, j'ose pas dire d'alliance. États-Unis, Arabie Saoudite, ça c'est pas nouveau, depuis la Saint-Valentin de 1944, c'est quelque chose d'acquis entre Roosevelt et justement le roi de l'Asie. Voilà, le pacte du Quincy. Ouais, mais le troisième acteur, c'est Israël. C'est-à-dire que cette
monarchie... Ce qui là aussi est assez inattendu, il faut expliquer
tout à fait,
pourquoi.
Cette monarchie ne voulait jamais même entendre parler d'Israël, pas question de relations, de reconnaissance, etc.
Or, quel est l'intérêt d'Israël dans cette affaire?
Eh bien, Israël est en fait, sur le plan militaire, en situation d'hégémonie dans tout le Grand Moyen-Orient. La montée de l'Iran lui fait donc peur. Et l'Iran est la seule puissance régionale à pouvoir clairement s'opposer à Israël, tant il est vrai que la Turquie a tout un tas d'accommodements avec Israël, y compris militaires d'ailleurs, et que l'Égypte, depuis Camp David, n'est plus cet adversaire. Donc, l'Iran fait peur, Trump n'aime pas l'Iran, l'Arabie Saoudite ne veut pas d'une hégémonie iranienne, donc effectivement, il y a un alignement de planètes Israël, Arabie Saoudite, Iran, mais qui est extraordinairement contraignant, parce que si vous passez, même de façon tacite et implicite, un accord avec Israël, alors à ce moment-là, il faut vous dresser contre le Liban du Hezbollah, donc le système Hariri, donc on convoque Hariri, donc on le démet parce que vous savez que Hariri en plus a la double nationalité libanaise et saoudienne, que c'est un homme d'affaires très engagé dans l'économie saoudienne, et que donc, par conséquent, il faut lui régler son compte. Et puis il y a d'autres comptes à régler avec le Qatar, avec le Yémen,
on
avec la Turquie.
On va rester quand même sur cette alliance. Est-ce qu'elle peut passer sur le plan intérieur, Clarence Rodriguez, s'allier avec Israël, c'est quand même s'allier avec Satan, c'est pays de la Mecque, l'Arabie Saoudite.
Alors, ça fait partie justement des perturbations, ce que vit en ce moment la population saoudienne, qui est complètement déstabilisée. avec ce jeune prince héritier, cette population qu'il a été au début avec cette guerre au Yémen. Alors effectivement, au début, la population était ravie que l'Arabie Saoudite soit à la tête donc de cette coalition de pays arabes. Il menait donc ce conflit face aux rebelles houthis, soutenus par l'Iran. Mais depuis quelque temps, ce n'est plus du tout populaire. Pourquoi ? Parce que cette guerre coûte très cher, quasiment 7 milliards de dollars par mois, alors que l'on demande à cette population de se serrer la ceinture, d'être à la diète. On lui a imposé, le roi Salman, il y a 3 ans, a imposé des mesures drastiques, avec notamment l'augmentation du prix de l'eau, de l'électricité, etc. Et donc cette population voit d'un très mauvais œil ces conflits menés à l'extérieur. On pourra en parler tout à l'heure concernant l'Israël.
Aux environs de 8h20, on vous retrouve, Clarence Rodriguez. Le titre de votre ouvrage, L'Arabie Saoudite, aux éditions Éric Bonnier, L'Arabie Saoudite 3.0. On reparlera également avec vous, Bertrand Badi, de la manière dont l'échiquier régional est en train de changer avec le Liban, avec également le Yémen et le Qatar, dont il faudra parler. Il est 8h sur France Culture.